These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Eh bien, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous êtes bien sur la Radio Béton, sur le 93.6. C'est l'heure de Déo et Débat. Déo et Débat, c'est tous les mardis de 18h à 19h et le samedi de 12h à 13h. Alors, avant de commencer cette émission, je voudrais m'excuser pour l'émission de samedi dernier. Hein, samedi de 12h à 13h, on devait causer avec la Confédération Paysanne et conseillère départementale écolo Sabrina Hamadi. Et grosse panne de courant à la Radio Béton. Porte d'accès au studio était fermée. Vous avez peut-être vu écoutez surtout qu'il n'y a pas eu d'émission de tout le week-end. Bon, la situation est redevenue normale depuis lundi matin. Donc, on reprogrammera cette émission parce que c'était quand même important de faire parler les agriculteurs et les écologistes sur la crise du monde agricole qui a bien secoué la France et qui continuera à la secouer dans les semaines à venir parce que leur histoire n'est pas réglée. Et je pense que vers la fin février, au moment du salon d'agriculture à Paris, ça va encore remuer un peu. Alors, aujourd'hui, on change de sujet. Le 8 février 2024, ce sera la date de sortie du dernier livre de Valérie Rodrigue qui s'intitule « Cache ta médaille » édité par Éric Bonnier. C'est un livre témoignage sur la situation palestinienne, un carnet de voyage en Cisjordanie, un livre à lire si l'on veut comprendre la situation du peuple palestinien, un récit rattrapé par l'actualité. Valérie, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est marqué dès la quatrième de couverture, tu es d'origine juive, tu habites en France, tu es reporter tourisme. Alors, pourquoi aller en Cisjordanie ?
Parce que je suis allée très souvent en Israël, hein, pour lequel j'ai fait beaucoup de reportages en Israël. Et quand j'étais à Jérusalem, je voyais ce mur de séparation. Et puis un jour, je me suis dit, parce que je suis journaliste, donc curieuse, j'ai envie d'aller voir ce qui se passe derrière ce mur. Et donc, j'ai contacté un ami qui est guide en Israël. Je lui ai dit, est-ce que tu ne veux pas m'emmener dans les territoires palestiniens occupés ? Il me dit, je n'ai pas le droit, je suis israélien et juif. Il va m'arriver des horreurs si j'y vais. Et d'ailleurs, tu ne devrais pas y aller parce que c'est très dangereux. J'ai dit, trouve-moi un guide palestinien qui m'y emmène. Donc, il m'a trouvé une guide palestinienne qui fait du bon travail. Il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment y aller, tu y vas avec elle. Et c'est comme ça que j'ai organisé mon premier voyage. Et j'ai fait deux voyages, un en 2022, un en 2023.
Tu as fait cette espèce de road trip, mais au risque de te fâcher avec ta famille.
De toute façon, ma famille... Je parlais déjà pas beaucoup parce que, un, j'ai épousé un chrétien, deux, parce que je pratique pas et que je suis vraiment très peu attachée, non pas à mon judaïsme, mais très peu attachée au fait religieux. Donc, il est vrai que la sortie de ce livre m'a définitivement brouillée avec 99,99% de ma famille.
J'ai parlé de road trip, hein, mais en fait, il y en a eu plusieurs. Le dernier date donc de début 2023. Tu es allée seule, t'avais pas peur ?
La première fois, j'y suis allée avec mon mari, que l'aventure intéressait fortement, et mon mari, c'est mon compagnon de voyage. Ensuite, on était au bord de la troisième intifada quand j'ai décidé d'y retourner, mais je voulais absolument y retourner parce que j'avais pris des contacts très intéressants avec des jeunes, avec des couples, pour parler de leur vie quotidienne. Et donc, cette fois, j'y suis allée toute seule, mais j'avais des appuis sur place. Cette fois-ci, j'avais un fixeur, j'avais des rendez-vous qui étaient pris, puis j'avais ce fixeur qui se proposait de me trimballer absolument partout en Cisjordanie. Donc voilà, après, l'ambiance était déjà délétère. Je me disais, il va se passer quelque chose. Donc c'est vrai que le 7 octobre, je n'ai pas été du tout surprise.
Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas compris, hein, le titre de ton bouquin, « Cache ta médaille hein, », ça veut dire « Ne pas montrer que tu es juive ». Tu t'es senti
pas... Oui, alors ça, c'est une injonction. Ça, c'est une injonction qui a bercé mon enfance parce que j'ai grandi dans un village français où il était de très mauvais goût d'être autre chose que chrétien. Et donc, mes parents, pour me protéger, me disaient « Ne dis pas que tu es juive, cache ta médaille » parce que j'avais une médaille, ils m'avaient offert une médaille à ma naissance, bref. Et toute ma vie, finalement, il fallait cacher cette origine parce que... on avait affaire à des gens qui avaient des préjugés. Et en Cisjordanie, on m'avait dit « ne dis pas que tu es juif parce que tu vas avoir des problèmes ». Alors, je l'ai dit à certains et à d'autres, non, parce qu'effectivement, j'aurais eu des problèmes.
D'accord. Tu attendais d'avoir un certain niveau de confiance, d'acceptation pour pouvoir en parler ?
Non, ça dépendait de mes interlocuteurs. Par exemple, mon fixeur, c'était quelqu'un de jeune, de très ouvert. Donc, lui, pour aussi clarifier la situation et pour pas qu'il y ait de malaise entre nous, je lui ai dit. Il m'a dit, Tant que tu viens pas piétiner ma religion, ta religion ne me dérange pas. D'autres où je sentais que la question, parce que ça aussi, en Cisjordanie ou en Israël, on vous pose la question de quelle religion vous êtes toutes les 5 minutes. C'est vraiment très, très lourd. Donc, selon l'interlocuteur, je sentais qu'il y avait un malaise derrière. Je répondais pas. Ou je ne répondais pas parce que j'ai pas envie de mentir non plus parce que j'aime pas ça. Mais c'est une question qu'on me posait toutes les 5 minutes. Et quand j'ai dîné dans la famille de mon fixeur, il m'a dit, ne dis surtout pas que tu es juive parce qu'il y a, y a une peur. Même si la plupart des gens ne mélangent pas sioniste et juif, hein, il y a quand même un ressentiment très fort. Et il y a quand même une peur et surtout un ressentiment très très fort vis-à-vis des Israéliens et vis-à-vis des sionistes. Donc une fois qu'on explique qu'on n'est pas sioniste et que on est de toute façon étranger, ça se passe beaucoup mieux.
Et donc, tu t'es jamais senti en danger?
Non, déjà parce que je voyage beaucoup et que j'ai fait 10 ans d'arts martiaux, donc je ne suis pas une peureuse. Ensuite, j'étais avec des gens de confiance. Et puis j'ai eu un très bon accueil en Cisjordanie. C'est quand même un accueil bédouin. Et j'ai été très bien reçue, très aidée pour construire mes interviews, très bien reçue par les témoins que j'ai interviewés. Non, j'ai jamais eu peur. Alors, j'ai plutôt eu peur de l'occupation militaire, parce que c'est quand même très impressionnant de voir des types avec des kalachnikovs, pas des kalachnikovs, des fusils d'assaut à tous les coins de rue. Ça, c'est quelque chose d'assez flippant. Donc, j'étais pas tranquille en croisant les militaires. C'est paradoxal, ils
T'as
seraient là pour
plus
assurer
peur
la
des Israéliens
sécurité.
que des Palestiniens, quoi.
Ah, mais énormément, énormément, bien plus, bien plus. Alors, les Israéliens aiment bien se faire passer pour des victimes, or c'est la puissance occupante, c'est la puissance militaire et la puissance occupante, donc c'est plutôt d'elle que j'ai peur.
Alors, tu es très critique d'ailleurs avec la politique d'Israël. Et comment ne
Oui.
pas tomber dans le piège, critiquer, c'est être antisémite?
Déjà, on peut difficilement m'accuser d'être antisémite dans la mesure où je suis juive, hein, donc je suis quand même bien placée. Alors,
On pourrait dire que
ça
tu
me
es une
paraît un peu
traître.
compliqué.
Tu peux être une traître.
Oui, on pourrait dire que je suis une traître. Bon, ceux qui me traitent de traître. De toute façon, il y a beaucoup de traîtres comme moi, hein. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'UJFP, qui est composée de juifs antisionistes. Donc, il y a beaucoup de traîtres comme moi. On peut difficilement m'accuser d'antisémitisme. Il y a un amalgame entre, on dit, être antisioniste, c'est être antisémite. Ça, c'est de la propagande israélienne, pure et simple. Et moi, je le revendique. Je suis juive de voilà, c'est pas un choix, c'est comme ça. Mais je suis antisioniste dans la mesure où je suis contre l'occupation, contre la colonisation, et je suis également contre l'aliyah. L'aliyah, c'est le droit pour tout juif de la diaspora de s'installer en Israël par sa religion. Il a droit à un passeport israélien en 48 heures. Voilà. En revanche, les Palestiniens qui ont été chassés en 48 et qui ont vécu la Nakba, c'est-à-dire l'Holocauste palestinien, eux n'ont pas le droit au retour. Donc, étant donné qu'ils n'ont pas le droit au retour, je ne vois pas pourquoi les Juifs auraient droit au retour.
Mais
Donc, je suis contre. Voilà, c'est ça mon antisionisme.
parce que tu pousses parfois le bouchon un peu loin, justement en faisant des parallèles avec l'Holocauste qu'ont subi les Juifs pendant la guerre 39-45, et en disant, mais finalement, ils n'ont rien compris puisqu'ils appliquent le même style de châtiment.
Exactement. C'est l'histoire du parent qui a été un enfant battu et qui bat à son tour. Pour moi, bon, il y a eu ce fait abominable de l'Holocauste qui doit rester dans les mémoires et dans l'histoire, mais on ne doit pas se cacher derrière. Faut arrêter de s'en servir comme paravent. Oui, mais il y a eu les pyjamas rayés, il y a eu l'Holocauste, il y a eu l'extermination, donc tout est possible. Ben non, tout n'est pas possible. Et justement, parce qu'on vient d'un peuple qui a souffert, on ne doit pas perpétuer cette souffrance, on ne doit pas l'imposer aux autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Parce que là, ce sont des crimes de guerre à Gaza, mais c'est en train de devenir un génocide. Et ça, ce n'est pas acceptable, surtout de la part d'un État dont certains membres ont vécu l'Holocauste.
D'accord. Eh bien, écoute, je vous propose de faire une première pause musicale. J'ai calé des pauses musicales palestiniennes aujourd'hui. Et on va commencer. Alors, excusez-moi de l'accent parce que je parle pas très bien arabe. On va écouter Dame avec Emta Njawak Yama.
انت جوزك يما
History, the people of have rallied bravely whenever the rights of men have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Vous êtes toujours sur la Radio Béton, dans Des Hauts et Débats, sur le 93.6. On est avec Valérie Rodrigue qui nous parle de son livre à paraître jeudi, Cache ta médaille, édité par Éric Bonnier. C'est donc un livre, un road trip, plusieurs road trips en Cisjordanie occupés. Dans ta motivation, Valérie, tu annonces que tu veux rencontrer des acteurs de la paix et des couples binationaux. Donc, tu as dit tout à l'heure, tu as préparé ce voyage depuis la France avec un fixeur.
Alors oui, j'ai préparé avec le fixeur, mais également avec des contacts que j'avais eus sur place lors du premier voyage, qui étaient notamment avec ma guide palestinienne qui avait compris que je ne voulais pas faire un voyage religieux, mais un voyage plutôt journalistique, politique, et qui m'avait mise en contact notamment avec quelqu'un du bureau de la communication de l'autorité palestinienne, qui lui m'a trouvé beaucoup de contacts parce que j'ai voulu axer mon sujet sur la jeunesse, ses espoirs, ses drames, mais aussi sur les couples binationaux. Parce que je me suis très vite rendu compte que les couples binationaux, c'est-à-dire un Palestinien qui veut épouser ou qui épouse une Américaine, une Anglaise, une Jordanienne, il y a beaucoup de mariages palestiniens-jordaniens, ou même un Arabe israélien, eh ben, ça va être très compliqué pour ces couples-là. L'administration israélienne va leur faire une vie impossible pour éviter qu'ils s'installent, pour éviter qu'ils construisent une famille, tout simplement. Un exemple criant, c'est que quand un Israélien juif veut épouser un étranger, cet étranger obtient la résidence permanente très vite, tandis qu'un Arabe israélien qui veut épouser un Palestinien, ce Palestinien n'aura jamais, mais jamais, la résidence. Il devra toujours renouveler des permis. Donc ça, c'est une des injustices.
D'accord. Et donc,
Et j'ai voulu axer mon voyage
voilà.
là-dessus.
Et t'as rencontré donc pas mal de couples qui ont des difficultés à vivre ensemble.
Bah, voilà, ils arrivent au bout de 30 ans, ils en sont toujours avec l'insécurité que ça génère, avec les dépenses financières colossales en frais d'avocat. Donc, ce sont des vies terribles. Et ce sont souvent des couples qui décident de ne pas avoir d'enfants parce qu'avoir des enfants, les enfants, ils vont vivre de quel côté de la ligne verte? Ils vont avoir quelle nationalité? Est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'école? Tout ça est très, très compliqué. Et donc, j'avais créé des liens sur place lors du premier voyage et j'ai fait fructifier ces liens via les réseaux sociaux, le téléphone. Et quand je suis retournée, j'avais déjà beaucoup de contacts qui m'ont permis de rencontrer encore de nouvelles personnes et de rencontrer un monde fou, en fait. Parce que j'ai rencontré beaucoup de monde. Dans ce livre, je cite, il y a des exemples, mais j'en ai rencontré beaucoup plus. Après, j'ai gardé les exemples les plus frappants.
Et ton livre décrit bien d'ailleurs les entraves et l'humiliation du peuple palestinien.
Bah oui, parce que c'est au quotidien. Ce sont des violences au quotidien. C'est par exemple, du fait de cette occupation militaire, ce sont des humiliations au checkpoint à longueur de journée. Ça commence par 5 heures. Moi, je l'ai vécu, hein, les 5 heures d'attente à Jéricho pour passer le checkpoint, 5 heures dans la voiture. Ça, je l'ai vécu une fois. Eux, c'est tous les jours. Ça, c'est une humiliation, mais il n'y a pas que les humiliations. Il y a le fait qu'on vous dise, bah, t'es pas juif, tu passes pas. Voilà, t'es pas juif, tu passes pas. Moi, je l'ai vécu hein, avec mon mari et ma guide. Je dis, bah, vous savez quoi, à partir de maintenant, vous êtes juif. Comme ça, on passe. On s'en fout, la question est tellement idiote qu'on s'en fout. Et tout le monde est juif. Voilà. Tout le monde s'embrasse, tout le monde est juif. Bon, il y a ça, mais il y a aussi carrément les meurtres. Hein. Moi, on m'a rapporté des histoires très très précises que je rapporte dans le livre sur des gens qui roulaient trop vite ou qui téléphonaient au volant et qui se sont fait shooter, quoi. On leur tire dessus, c'est pas compliqué. Ailleurs, on vous arrête, on vous met une contravention, ben là, on vous tire dessus, quoi. Et après, on met votre corps au frigo. Parce que on humilie un peu plus les morts et les familles. Et d'autres disent, et là, il y a une ONG qui a demandé une enquête à l'ONU quand même là-dessus. On pense qu'il y a un trafic d'organes aussi. Ça, c'est quelque chose qui est dans l'inconscient collectif et qui est en tout cas une vraie question. Donc, ça va très très loin, l'humiliation, elle va jusqu'au meurtre.
Alors, tu montres à quel point l'image de la démocratie israélienne cache en fait une société à deux vitesses avec deux types de citoyens, quoi.
Ben, c'est une réalité. On peut parler d'apartheid. On peut parler d'apartheid. C'est pas, on n'a pas les mêmes droits si on est arabe israélien et palestinien. On n'a pas les mêmes droits qu'un juif israélien, c'est sûr. De toute façon, le fait aussi, qu'est-ce qui représente le drapeau israélien, c'est quoi? C'est une étoile de David et c'est les bords d'un talit. Ce sont des symboles religieux. Alors, il y a 20% d'Arabes israéliens en Israël, et qu'est-ce qu'ils représentent? Une étoile de David et un talit. C'est un État qui se dit État hébreu. C'est-à-dire, voilà, si on est juif, on a tous les droits. Si on n'est pas juif, eh ben, ça va être difficile pour vous.
Et tu m'as l'air gourmande aussi parce que ça parle beaucoup de nourriture quand même, hein.
Oui, d'abord, je suis très gourmande. Ensuite, voilà, pour résumer, en Cisjordanie, on se fait contrôler à tous les coins de rue et on mange super bien. On mange super bien, on se régale, et puis il y a ce café à la cardamome que moi j'adore, le Arabic Café. Il y a les coffee shops où on fume la chicha, moi c'est ma culture, j'adore. Et c'est vrai qu'on goûte. Moi, j'étais invitée, mais bon, c'est cette chaleur et cet accueil bédouin aussi. Quand on va chez quelqu'un, il y a toujours forcément des friandises. Mais pour vous, c'est pas qu'ils sortent du placard. Ils savent que vous allez venir. Eh ben, ils vous offrent des dattes, des gâteaux, une salade de fruits, du café et au restaurant, les plats, les portions sont énormes. Oui, c'est un vrai plaisir. Et j'ai rencontré ce chef, Fadi Khatan, ce chef extraordinaire, qui a un restaurant d'ailleurs à Londres où je suis allée. Et lui, son discours est très, très intéressant. Déjà, il parle très bien de cette cuisine. Il dit qu'il y a une vraie culture culinaire en Cisjordanie, mais que là aussi, Israël se l'approprie, les chefs israéliens, à part un ou deux, dont j'ai oublié le nom, mais qui sont très honnêtes. Mais sinon, les autres s'approprient les plats palestiniens. Il dit l'occupation se poursuit jusque dans l'assiette. C'est intéressant comme point de vue, ça.
Pour rester dans l'actualité immédiate, tu y crois, toi, la solution à deux États?
Ben, j'ai peur qu'il n'y ait pas d'autre solution, surtout. C'est ce qui pourrait arriver de mieux. Qu'est-ce qui peut se passer d'autre? Regarde, là, c'est la guerre. Alors, la situation que je raconte dans mon livre est déjà terrible au quotidien, mais c'est encore pire depuis le 7 octobre et les crimes de guerre à Gaza. La situation est encore pire. Il n'y a plus de travail, il n'y a plus de permis de travail en Israël. Maintenant, on fait venir une manne indienne, donc les Palestiniens n'ont plus de boulot en Israël. Les supermarchés sont vides. C'est une mort à petit feu. Qui peut se passer de mieux, c'est depuis très très longtemps, ce serait deux États. Je ne vois pas ce qui peut se passer d'autre.
Mais quand je dis tu y crois, c'était pas tu crois dans cette solution, tu crois que cela est possible?
Faudra bien sortir de la guerre, ça ne peut pas continuer éternellement. Maintenant, d'un côté, on a une puissance militaire et un État occupant, et de l'autre, eh ben, on a des gens qui galèrent, quoi.
Est-ce que les
Qui
Palestiniens
galèrent et qui ont le Hamas aussi, et qui sont victimes aussi du Hamas, parce qu'eux aussi sont victimes du Hamas.
que tu as rencontrés, ils y croient, eux, à cette solution à deux États ou ils sont sans espoir?
Alors aujourd'hui, avant le 7 octobre et avant Gaza, ils espéraient une solution. Les gens que j'ai rencontrés, je veux parler au nom de tous les Palestiniens, mais certains m'ont dit on aimerait une solution à un État comme en Afrique du Sud, mais pour ça, il ne faudrait pas un Netanyahou, il faudrait un Nelson Mandela. D'autres disent la solution, c'est une solution à deux États. Puis aujourd'hui, ils sont catastrophés parce qu'aussi la plupart de la famille à Gaza, et aujourd'hui, ils croient à rien du tout. Ils se disent juste qu'est-ce qu'on va bouffer demain?
Écoute, Valérie, je te propose de faire une deuxième pause musicale et on va s'écouter un morceau qui s'appelle Border Control. Ça tombe bien, tu parlais tout à l'heure des checkpoints et ça, c'est un morceau du groupe 47 Soul.
الضفة القدس classical Bethlehem lore. If you hear us, heed the call.
Fila que definirá tu vida, que separa tu pasado de un futuro sin hawíe, condenado sin la visa, esta línea no se pisa, ni se encuentra sabidario con razones indecisas. Permiso rechazado. Juntos enfrentamos injusticias del Estado. Palestino, latino, andino, no será callado. Palestino, latino, andino, no será callado.
This border control congesting our soul, taking its toll on us all. We gonna dissolve this Mexico Bethlehem war. If you hear us, heed the call.
Of our nation's history, the people of have rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.
Voilà, dernière partie pour ce déo et débat consacré au livre de Valérie Rodrigue, Cache ta médaille, paru chez Éric Bonnier, pas paru, non, qui va paraître jeudi. Jeudi prochain, jeudi 8 février, Valérie, il va y avoir un gros event pour une grosse fiesta pour la sortie de ce livre.
Oui, je vais faire une signature. Oui. Oui, jeudi, j'ai une librairie qui m'a invité pour faire une signature.
Oui.
Et il va y avoir qui est ouverte à tout le monde, à tous les publics, et il va y avoir une discussion, une signature et un petit cocktail. Je joue des prétextes à faire une fête.
À base de produits palestiniens ou tu vas rester dans le franchouillard ?
Non, en fait, c'est un traiteur libanais qui est ami de la librairie à qui j'ai demandé... bon, là, c'est très bon, j'adore la cuisine libanaise, mais on reste dans le Moyen-Orient.
Très bien, donc pas de halouf.
Non, cela dit, moi j'en mange du porc, j'ai pas de problème. Avant j'en mangeais pas et puis j'ai trouvé que c'était ridicule au bout d'un moment. Et puis comme je vis avec un chrétien qui en mange, et ben à un moment donné il m'a déteint dessus et j'en mange de temps en temps.
Est-ce que tu as pensé, justement, on va parler un petit peu de la sortie de ton livre, est-ce que tu as pensé au risque d'instrumentalisation de ton récit ?
Dans quel sens une instrumentalisation ?
Eh ben. Que certains se servent de ton livre pour dire que tu attaques injustement Israël, que ce que tu dis c'est faux, que Israël est un pays merveilleux où tout se passe bien.
Bah déjà qu'on dise, moi je suis pas contre Israël, Israël existe, il va bien falloir cohabiter Israéliens et Palestiniens. Je suis pas contre Israël, je suis contre cet État et je suis contre cet État, excusez-moi, ce gouvernement d'extrême droite. Alors, je suis contre, farouchement contre toutes les extrêmes droites qui ne produisent que le chaos et l'hyperviolence. Et on le voit en ce moment en Israël, ça produit de l'hyperviolence. Les faits, bah, écoute, on ne peut pas dire que c'est faux. C'est des choses que j'ai vues. Moi, j'ai une qualité. En tant que reporter, je vais sur les lieux. Je ne travaille pas en distanciel. Je vais sur les lieux et je rencontre les gens, je frappe aux portes, je vais chez eux, je partage des repas, je dors à côté de chez eux, sinon chez eux. Donc on ne peut pas dire que... On ne peut pas m'accuser de rapporter des choses fausses. Ce sont des vrais témoignages parce que je suis allée là-bas. Maintenant, s'il y a des gens peuvent dire et penser ce qu'ils veulent. Moi, j'ai eu cette démarche qui est honnête et sincère. On peut ne pas être d'accord, je ne vois pas comment, puisque ce sont des faits réels. On peut... On peut dire, oui, j'ai eu des réactions sur les réseaux sociaux, disant, oui, tu démolis Israël. Non, je ne démolis pas Israël. Encore une fois, c'est ce gouvernement.
Tu
Je démolis une politique.
t'es préparé à un possible flot de haine sur les réseaux sociaux?
J'ai déjà eu ce flot de haine sur les réseaux sociaux et j'ai eu ce flot de haine de la part de ma famille, ce qui est encore pire. Donc, mais moi, je suis une femme de conviction et je me bats pour des idées. Quand j'ai fait avant un livre sur les Roms, je m'en suis pris plein la figure aussi, hein. C'était un sujet difficile. Voilà. Je suis pas inquiète plus que ça, surtout que j'ai du répondant. Encore une fois, je suis une boxeuse, donc j'ai du répondant, j'en ai. Donc, je ne suis pas inquiète.
Est-ce que tu ne crains pas le risque d'être interdite de séjour en Israël?
J'y ai pensé, puis on m'a dit qu'il en faut quand même bien plus que ça, bien plus. Tu sais, il y a quand même des gens comme Shlomo Sand, Ilan Papert. Je ne sais pas s'ils sont interdits de territoire maintenant, mais Shlomo Sand, Ilan Papert sont des auteurs, des journalistes auteurs qui ont beaucoup écrit aussi contre la politique d'Israël. Je sais pas s'ils sont interdits. Il y a Amira Haas qui est quand même que j'ai eu la chance de rencontrer à Ramallah, qui, elle, est une journaliste juive qui travaille pour Haaretz, qui habite à Ramallah, qui a habité à Gaza, qui défend les Palestiniens depuis 30 ans. Je ne pense pas qu'elle soit interdite de territoire. Et maintenant, si Israël veut plus que j'y aille, eh ben, j'irai plus. Parce que de toute façon, la terre est vaste et il y a plein d'endroits à découvrir.
Tu es toujours en contact avec ces gens que tu as rencontrés, tu as échangé depuis ton retour?
Alors oui, c'est comme toujours, on accroche plus ou moins avec les gens. Certains sont devenus des amis. J'ai une amie à Ramallah, j'ai un ami à Hébron, j'ai des amis à Bethléem. J'ai reçu à la maison mon fixeur et ma guide qui sont venus à Paris. J'ai gardé des liens très forts avec une fille à Ramallah. J'ai fait parvenir mon livre en passant par Londres parce qu'il n'arrive pas à recevoir de courrier là-bas. Je l'ai envoyé à Londres, son frère lui a ramené à Ramallah. Oui, j'ai établi des liens très forts comme toujours dans ce genre de reportage. Parce qu'on parle de l'humain, parce qu'on parle de la vie quotidienne.
Et sinon, pour finir, tu n'es pas très tendre avec ta famille quand même, hein?
Bah, ils ont.
Notamment avec ta pauvre mère. Est-ce que tu lui as envoyé ce bouquin?
Jamais, jamais. De toute façon, je ne parle plus à ma mère depuis très longtemps. De même qu'elle ne me parle plus depuis très longtemps, je ne parle plus à ma sœur non plus. Enfin, j'ai quand même, on dit, on choisit ses amis, on ne choisit pas sa famille. Et c'est vrai. C'est comme ça, je suis née dans la mauvaise famille. De toute façon, j'ai toujours été le canard, le vilain petit canard, parce que j'avais pas le même style de vie, que j'avais pas fait les mêmes choix, que je suis pas tendre avec eux, mais ils n'ont pas été tendres avec moi. Quand je vois que cette tante, quand même, cette abrutie de tante de Jérusalem, qui a eu le culot de me dire, tu devrais manger cachère. Je dis, mais je mange pas cachère, c'est juste mon choix. Et puis, je suis mariée à un chrétien, donc non, on ne mange pas cachère. Ça lui ferait plaisir, mange cachère. Je fais, bah non, ça ne va pas lui faire plaisir. Bien sûr que non, que ça ne va pas lui faire plaisir, manger cachère. J'ai dit, tu peux respecter ça. Puis, je lui dis, je suis une citoyenne du monde. Et elle se fout de ma gueule. Elle me dit, ah, si tu es citoyenne du monde, moi, je suis le pape. Je lui dis, tu sais, je suis connue en France pour écrire sur les autres cultures. Parce qu'il n'y a rien de pire pour moi que les gens qui écrivent sur leur petit clocher, là, leur petit monde. Alors voilà, l'Antillais, il va écrire sur les Antilles, et puis le Juif va écrire sur les Juifs. On ne sort pas de ce truc-là, et à un moment donné, arrêtez, faites tomber les frontières. L'écriture, c'est un territoire sans frontières, normalement. Eh ben, voilà, j'ai une tante imbécile. Quand j'ai eu le Covid en Israël, c'était la dernière à prendre de mes nouvelles. J'ai pas de chance. Après, j'ai une bonne, belle famille, alors voilà, j'ai de la chance.
Très bien, je ferai passer le message. Eh bien, écoute, Valérie, un grand merci pour ces quelques minutes que tu nous as accordées à Radio Béton pour des hauts et des bas. Je te souhaite une bonne sortie de bouquin donc dans 2 jours à Paris. Bonne bouffe libanaise. Hein, on t'envie presque, on voudrait presque y aller. Voilà. C'est vrai que une petite bande de mezzés, ça nous
Ah
ferait du
bah
bien.
venez, venez. Alors venez, c'est open bar. C'est open bar, venez. Et puis merci beaucoup pour l'interview.
Merci Valérie. Bon vent et bon futur écritures. Merci à Véro qui était à la technique ce soir. Et puis on se quitte comme ça. C'était des hauts et des bas. Et dans quelques minutes, vous retrouverez du blues, sinon rien. Au revoir.
These are the times that try men's souls. In the course of our nation's history, the people of rallied bravely whenever the rights of man have been threatened. Today, a new crisis has arisen. Citizens, hear me out. This could happen to you.